Le temps dans tous ses états. Jean Marcel. Le temps de réfléchir. Pierre Dac est formel. Ton avenir est devant toi, mais tu l'auras dans le dos chaque fois que tu feras demi-tour. Qu'on le veuille ou non, notre avenir arrive à grands pas. Même si, quelquefois, on trouve le temps long, il passe très vite et souvent trop vite. Le futur, qui nous paraissait lointain, est subitement devant la porte, tandis que notre avenir proche se transforme en passé récent à la vitesse du cheval au galop. Un autre facétieux, Einstein, a dit « Tout est relatif ». Pour le coup, il s'agit bien là d'un avis autorisé, et Jean-Marcel s'incline. Avec sa pensée relativement restreinte, il ne va pas ferrailler avec le père de la relativité générale. Albert en connaissait un rayon sur l'écoulement du temps et la vitesse de la lumière, mais il ne prévoyait pas l'avenir pour autant. Malgré son pacifisme militant, ses découvertes ont débouché sur Hiroshima et tout l'arsenal nucléaire, militaire et civil que l'on connaît aujourd'hui. C'est peut-être du côté de Stephen Hawking et de sa brève histoire du temps que les réponses sont les plus nombreuses, à défaut d'être les plus encourageantes. Les hommes ne sont pas égaux devant le temps, les disparités sont nombreuses et injustes. Certains n'ont pas d'avenir, d'autres ont un passé chargé, et la plupart vivent un présent très incertain. Des gens brillants ont traversé la vie à la vitesse de la lumière. D'autres, qui ne sont pas des lumières, pourrissent notre présent en s'éternisant durablement. Les étoiles filantes de la pensée nouvelle font plus rêver que les avalanches d'idées toutes faites. Si l'apocalypse est à la carte, autant choisir une belle comète flamboyante qu'un champignon atomique mal dosé. Pour un Boris Vian, un Arthur Rimbaud, un Raymond Radiguet, combien de plumitifs consensuels et laborieux avons-nous subi? Il y a des créateurs qui nous donnent envie de vivre longtemps et d'autres qui nous encouragent à mourir jeunes. Le passé, c'est la nostalgie. Car le temps passé ne se rattrape jamais, et les regrets, comme les feuilles mortes, se ramassent à l'appel. Le présent, c'est le bonheur pour celui qui réussit son avenir anticipé. C'est l'amertume pour celui qui a raté son passé mal négocié. Le futur, c'est l'espoir, le temps donné en supplément pour réaliser ses rêves, ou simplement continuer son bonhomme de chemin et vivre sa vie. Jean Marcel note au passage que ceux qui ne pensent pas à l'avenir sont beaucoup plus détendus que les autres. Une fois de plus, Pierre Dac est très précis sur le sujet. Ceux qui pensent à tout n'oublient rien. Et ceux qui ne pensent à rien font de même, puisque, ne pensant à rien, ils n'ont rien à oublier. Jean Marcel est content. Son âge lui permet de comprendre encore les préoccupations des jeunes et d'appréhender déjà les soucis des vieux. Tempus fugit. Le temps qu'il fait. Il y a quelques années, Jean-Marcel rentra dans un bar. C'était en plein hiver et le besoin d'une boisson chaude était urgent. Des fanions à tête de mort étaient accrochés de partout, signifiant d'emblée que le patron était corse et fier de l'être. Debout derrière le comptoir, il essuyait des verres. Il avait l'air serviable et gentil, mais il avait aussi le petit je-ne-sais-quoi du gars qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Jean-Marcel eut la confirmation immédiate de son impression fugace. Une affichette, libellée à la main, était posée sur le marbre et faisait face au client. « Client, tu es ici chez toi, mais si tu me parles du temps, je te mets dehors illico. » L'insulaire avait un cœur gros comme ça, et le sang chaud. Le problème, c'est qu'il ne supportait plus la brume et le froid lyonnais. Le souvenir du soleil de Calenzana le rendait nostalgique et, éventuellement, violent. Il va sans dire que Jean-Marcel n'aborda pas le sujet en question, le magnifique parcours de Bastia en Coupe d'Europe occupant l'essentiel de la conversation. Les sempiternelles rengaines sur la canicule de 2003, ou la vague de froid qui se rapproche, nous exaspère tous. Nous sommes tous des patrons de bar corse. Et pourtant, le temps est un sujet de conversation bien pratique. C'est une entrée en matière pour les timides, mais aussi pour les curieux. Le timide n'insistera pas quand les considérations météorologiques seront terminées, tandis que le curieux poursuivra en posant les questions préméditées depuis bien longtemps. Bien souvent, on a aussi affaire à ceux qui ont besoin d'un service. « Au fait, je voulais te demander un truc. » Ceux-là sont vite repérés, mais il y a toujours une première fois. Dans le remarquable film de Brian De Palma, L'Impasse, Al Pacino a cette réplique fameuse. « Un service, ça tue aussi vite qu'une balle de revolver. » Un peu excessif, sans doute, mais pas dénué de sens. Que les petits vieux abordent le sujet du temps, passe encore, mais les jeunes. « Il va faire beau ce week-end, il va pas faire beau ce week-end. On s'en fout, parlons d'autre chose. Sarko est en train de nous entuber dans les grandes largeurs. Si on continue à parler météo, on va tous finir sous les ponts. Et là, on saura ce que c'est que d'avoir froid. » Le temps de Noël. Cher Père Noël, tout d'abord, je voudrais que tu me confirmes ta venue par retour de courrier. Depuis quelques mois, je me demande si tu vas bien passer chez nous. Je crois que tu es Lapon ou un truc comme ça, donc tu n'es pas bien français, et notre président est très à cheval sur l'identité nationale. J'espère que tu n'auras pas d'ennui à la frontière. C'est clair qu'avec ton traîneau volant, tu dois te débrouiller pour passer, mais je suis quand même très inquiet pour toi. Si les forces de l'ordre t'allument au flashball, elles sont capables de te dégommer un renne ou deux. Il n'y a que deux personnes capables de faire des choses incroyables qui font rêver les gens. Jésus et toi, le Père Noël. Jésus, il marche sur l'eau, et toi, tu passes par les cheminées, y compris dans les HLM où il y a le chauffage au sol. Le problème avec Jésus, c'est qu'il promet beaucoup, mais on voit rien venir. Il paraît qu'il multiplie les pains, mais ceux qui ont faim l'attendent depuis 2000 ans en se tapant sur le ventre. Ils vont au Resto du Cœur, c'est plus rapide. Son livre de souvenirs est sympa, ça se lit bien. Aimez-vous les uns les autres, ou tu ne voleras pas. C'est vachement bien, mais en théorie seulement. Dans la pratique, c'est pas très facile à appliquer, surtout quand on se fait dépouiller à longueur de journée et que la société nous met au encart. En ce qui te concerne, les statistiques sont formelles. Il y a une majorité de Français qui croient au Père Noël. Autrement, Sarkozy ne serait pas président. Tous les ans, tu viens vérifier si tout se passe bien. Tu relèves les compteurs, en quelque sorte. J'ai une demande un peu spéciale cette année. Je voudrais que tu penses à gâter ceux qui se lèvent tous les jours pour aller au boulot pendant 40 ans sans jamais se plaindre. Leur quotidien pour vivre mieux, c'est heures supplémentaires et impôts sur le revenu. Pas de quoi s'éclater vraiment. Pense à eux. Ce sont des gens qui méritent un peu plus d'estime. Tu peux faire l'impasse sur pas mal d'autres Français qui se sont bien remplis les poches avec les cadeaux fiscaux et les exonérations diverses. Pour eux, le Père Noël est déjà passé, et plutôt deux fois qu'une. Il va falloir que tu te bagarres sec pour garder ta place, car Internet est un sérieux concurrent. Livrer en une nuit, c'est un sacré challenge. Mon souhait le plus cher, c'est que tu puisses nous éclairer à l'avance sur tous les trucs moches ou débiles que l'on pourrait faire ou dire. Un peu comme dans « La vie est belle » de Frank Capra, où un vieil ange bourru montre les conséquences de ses choix à un homme désespéré. Montre-nous la voie à suivre pour devenir un peu moins con et égoïste. Ce sera le plus beau des cadeaux. Affectueusement, Jean-Marcel. Le temps de manger. Les fêtes de Noël ressemblent à La Grande Bouffe, le film sulfureux de Marco Ferreri. Les Français, réunis autour d'une table pleine de victuailles, se remplissent la panse en oubliant leur taux de cholestérol ou de glycémie. C'est la coutume, me direz-vous, on a toujours fait bombance pour le réveillon de Noël et du jour de l'an. Mais Jean-Marcel ressent un petit changement dans la tradition et va tenter de vous l'expliquer. Depuis que la France est entrée dans l'ère Sarkozy, les fortes recommandations et les interdictions pullulent et polluent l'atmosphère. La bouteille de bon vin est convoitée, mais la peur du flash au coin de la rue est si forte que le Français, grand buveur de pinard, est contraint de s'envoyer une eau de source bien fraîche, certes, mais sans grande qualité gustative. Pour la nourriture, le problème se pose aussi. À longueur d'année, les médias ont une seule et même rengaine. La nourriture vous tue à petit feu, soignez votre alimentation, mangez bio, j'en passe, et des meilleurs. Ajoutons à cela une interdiction de fumer généralisée, qui, pour l'instant, ravit les non-fumeurs. Oui, Jean-Marcel a bien dit « pour l'instant ». Quand le brave quidam, supporter des interdictions sarkoziennes, se rendra compte que, couche après couche, l'empilage d'interdits le prive, lui aussi, de la plus élémentaire liberté, il tombera de haut et épongera ses yeux humides. Les Français, qui réveillonnent en buvant sec et en mangeant comme des cochons, font comme les héros de la grande bouffe. Ils bravent les interdits et vont jusqu'au bout de leur jouissance. La mort est au bout du chemin, bien sûr, mais mourir le ventre plein de civets de sanglier, le palais sublimé par le parfum d'un bourgogne pinot noir, c'est autre chose que se taper un sandwich pain de mie et un coca. Quand on a un président qui trempe sa main jusqu'à la Rolex dans le bocal de caviar, on n'a pas trop envie de se serrer la ceinture. Mangeons et buvons, mes frères. Après nous le déluge. Le temps de rire. À la question « Est-ce que l'on peut rire de tout ?», Coluche répondait « Oui, à condition que ce soit drôle ». Une réflexion que les comiques du service public feraient bien de méditer. Par manque de talent souvent, et par manque de travail toujours, les nouveaux chansonniers de la télé sont consternants. Certains soirs, chez Ruquier, ils n'arrivent même plus à se faire rire entre eux, ce qui est pourtant la marque de fabrique de l'émission. Ruquier, excellent chansonnier quand il prend le temps de préparer son spectacle, débite des minivans à toute allure et s'empresse de rire nerveusement pour montrer au public que c'était drôle. Mais la palme de l'émission la plus tristounette revient à Michel Drucker et à son tour de canapé du dimanche soir. Des chroniqueurs avachis qui parlent bien chacun leur tour, quand le maître leur fait signe, enfoncent la France chaque semaine dans la médiocrité. Les éternels pics contre Sarkozy, que chacun d'entre nous a pu entendre à l'épicerie du coin, ou à l'usine, ou au bureau, sont balancés sans conviction, déclenchant les applaudissements chronométrés d'un public trié sur le volet et pris en charge par un spécialiste de la claque. Chaque semaine, l'imitateur officiel de Roselyne Bachelot vient nous gratifier d'un sketch qui fait pleurer Drucker et Jean-Marcel, mais pas pour les mêmes raisons. Quant à Anne Roumanoff, capable du meilleur quand elle est sur scène, elle nous envoie le pire, accoudée au comptoir avec son verre de vin rouge. Du lourd, du vulgaire, du graveleux, n'importe quoi pourvu que ça parle de politique et de Sarkozy. Cela se veut anti-politiquement correct, et cela devient consensuel tellement c'est con et vide de sens. Les éléphants de l'UMP doivent se plier de rire en entendant ça. Enfin un humour à leur portée, compréhensible et bien de chez nous. Une note d'espoir pour terminer. Le Fou du Roi, sur France Inter, compte dans ses rangs d'authentiques chansonniers, pleins de talent. Vive les vrais chansonniers, vive la radio. Le temps de lire. Dans un prologue de 10 pages absolument époustouflant, James Ellroy plante le décor, décrit ses deux personnages principaux et vous met l'eau à la bouche. Vous comprenez illico que les romans comme celui-ci sont rares. Après quelques chapitres, sidérés par la prose de l'auteur, vous comprenez que ce roman est unique. L'histoire du Dahlia Noir, c'est d'abord l'histoire de deux amis, flics et anciens boxeurs, dans le contexte de l'immédiat après-guerre à Los Angeles. Deux hommes, au passé chargé, en quête de rédemption. Les compromissions et les trahisons plombent leurs images de bons et loyaux serviteurs de l'ordre. L'enquête sur le meurtre du Dahlia Noir leur donne une occasion de rachat. Retrouver le meurtrier sadique devient pour eux une véritable quête du Graal, une obsession qui les mènera dans les profondeurs noircies et putréfiées de l'âme humaine. Le meurtre sauvage d'Elizabeth Short en 1947 reste une des énigmes les plus célèbres des annales du crime en Amérique. James Ellroy ressort l'enquête du placard et la résout, car cette histoire est un peu la sienne. Née en 1948, Ellroy a 10 ans quand sa mère est assassinée par un serial killer que la police ne retrouvera jamais. 30 ans plus tard, le résultat de son autopsychanalyse donnera l'extraordinaire Dahlia Noir, un polar aux vertus thérapeutiques pour lui, car en résolvant ce crime célèbre, il se réconcilie avec une mère qu'il abandonna trop tôt et contre son gré. Il passe du rang d'enfant victime, hanté par le remords, au rang d'écrivain adulte et assagi. Mais Elroy est d'abord, et surtout, un artiste remarquable qui sort des sentiers battus du roman policier classique. Il sait décrire froidement, sans compassion, des situations dramatiques. Il les envoie sèchement, il les exécute alors que beaucoup d'autres auteurs gagneraient quelques pages et quelques dollars de plus avec la même intrigue. C'est l'âme humaine dans toute sa noirceur qui intéresse Elroy. Il remonte toujours à la source quand un acte ignoble est commis. Il nous donne les pièces du puzzle criminel, mais ne les assemble pas pour nous. Il n'exécute personne, il ne condamne personne, il raconte. Le meurtre d'une apprentie starlette lui permet de peindre le portrait peu reluisant d'un Hollywood où l'on tournait plus de films porno que de grosses productions pudibondes. Au passage, il souligne aussi que la frontière entre le bien et le mal est virtuelle, pour ne pas dire inexistante. Vous pouvez lire aussi « Clandestin », une sorte d'ébauche du Dahlia noir, qui en possède tous les atouts, mais qui est beaucoup moins connu. Depuis quelques années, Elroy s'est lancé dans une trilogie sur l'histoire récente de l'Amérique qui couvre de l'avant Kennedy à l'après Nixon. American Tabloid, American Death Trip et Underworld USA sont trois monuments à lire d'urgence. L'histoire, avec un petit H observé par le petit bout de la lorgnette, construite dans la violence et la corruption par des truands et des barbouzes sans grand relief. Vous découvrirez que le sort du monde se décide parfois par un coup de fil ou un rendez-vous dans un nightclub pourri. Le temps change. « The times, they are changing », chantait Bob Dylan. Jean-Marcel ne cesse de s'interroger sur l'époque que nous traversons et sur celle que nous allons connaître. Au rayon des choses qui changent, il y a les mentalités, c'est une certitude. L'individualisme et l'égoïsme sont devenus les tours jumelles de la grande cité en carton-pâte. L'écoute, la solidarité, l'entraide ont quasiment disparu et vivent en marge, à la lisière, près de la décharge publique. Dans les jardins bétonnés, construits sur la friche de la conscience politique abandonnée, pousse un fruit sans goût, sans saveur, le suivisme. Le dernier qui parle a raison et emporte le morceau. Les politiciens n'ont pas à forcer leur talent d'orateur. Convaincre est un jeu d'enfant, surtout quand on a affaire à des enfants. À l'image de notre hyperactif président, les dirigeants fortunés nous expliquent que les temps vont être difficiles et les moutons, déguisés en gagneurs, applaudissent. L'école publique, c'est fini. Le partage du travail, c'est fini. Le droit à la santé pour tous, c'est fini. Justice pour tous, c'est fini. Les Français n'ont pas compris que sous le mot « réforme » se cachait bien autre chose. Un changement complet de leur mode de vie, un formatage draconien de leurs faits et gestes, un contrôle quotidien de leurs pensées et de leurs comptes en banque. Les règles du Monopoly ne sont plus les mêmes qu'avant. S'enrichir et acheter des maisons, ça marche encore, mais au final, c'est la banque qui gagne. Les dés sont jetés. La France, à l'image des autres pays européens, est en train de devenir une république bananière, où, sous couvert de démocratie, une poignée de riches se gavent sur le dos des autres. Pour faire bonne mesure, rajoutons un brillant socialiste à la tête du FMI. Ce n'est plus de l'ouverture, c'est le partage du gâteau organisé. Jean-Marcel regarde sa carte du monde et réfléchit. Où vais-je m'installer ? Venez, sénateurs, députés, s'il vous plaît, prêtez attention à l'appel. Ne restez pas debout devant l'entrée. Ne bloquez pas le hall, car celui qu'on blesse sera celui qu'on retiendra. Il y a une bataille dehors et elle fait rage. Elle fera bientôt trembler vos fenêtres et ébranlera vos murs, car les temps sont en train de changer. Le temps du génie. Jean-Marcel est fasciné par les artistes dont le passage sur cette terre fut bref, mais qui laissent derrière eux des œuvres extraordinaires. Il y a peut-être un peu de prémonition chez ces hommes qui ont tout donné en si peu de temps. Se sachant guettés par la mort, ils ont eu la classe et la précaution de nous léguer le meilleur d'eux-mêmes avant de partir. Le champion toute catégorie de la précocité et du génie est évidemment Wolfgang Amadeus Mozart, mort à 35 ans, et qui laisse en héritage pas moins de 626 œuvres répertoriées. Un extraterrestre, sans doute. Depuis 5 siècles, la vie aventureuse et courte de François Villon alimente l'imaginaire des poètes du monde entier. Universitaire, voleur, assassin, Villon a inventé le cynisme et l'humour noir. Il avait dans ce domaine bien des trains d'avance sur les petits rimailleurs d'aujourd'hui. Disparu sans laisser de traces à 31 ans, la légende de l'auteur de La Ballade des Pendus ne finira jamais de se construire. Je suis français et cela me pèse. Né à Paris près de Pontoise et de la corde d'une toise, mon cou saura ce que pèse mon cul. Arthur Rimbaud ne s'est pas fait bien vieux non plus. 37 ans superbement résumés dans une saison en enfer. C'est peu et c'est beaucoup. Raymond Radiguet, terrassé à 20 ans par la fièvre typhoïde, a écrit 2 romans qui marquèrent leur époque, Le bal du comte d'Orgel et Le diable au corps. Ironie du sort, l'interprète du diable au corps au cinéma fut Gérard Philippe, foudroyé en pleine gloire à 36 ans. Alain Fournier n'écrivit qu'un seul et unique roman, Le Grand Maulne, avant d'être tué dans les premiers combats de la tuerie de 14-18. Il avait seulement 27 ans. Boris Vian nous a offert L'écume des jours, L'arrache-cœur, et son poème hautement symbolique, Je voudrais pas crever, avant de s'éteindre à 39 ans. Le chouchou de Jean Marcel? John Kennedy Toole, bien sûr. Cet auteur américain obtint le prix Pulitzer en 1981 pour La conjuration des imbéciles, roman écrit en 1961 mais paru en 1980. John Kennedy Toole ne vint jamais chercher son prix prestigieux, car il s'était suicidé en 1969 à l'âge de 32 ans, se croyant écrivain raté. Au début de son roman, on peut lire cette citation de Jonathan Swift. Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on le peut reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. Comme dirait l'autre, c'est pas faux. Le temps du rêve. Ce matin-là, Jean-Marcel se réveille tout transpirant, angoissé par le rêve étrange qu'il a fait durant la nuit. La scène se passe dans la petite lucarne magique qui projette des lueurs bleutées dans tous les foyers français. Il s'agit d'un rêve télévisuel en couleur et sans publicités intempestives. Un présentateur massif, qui parle fort comme s'il présentait un comice agricole dans un champ de colza fraîchement coupé, anime une émission de variété nostalgique intitulée « C'était mieux avant ». Le public est composé de rombières quinquagénaires qui frisent l'overdose de Prozac. Les maquillages sont abondants et les fonds de teint épais dégoulinent sur les rivières de diamants bon marché. Elles applaudissent à tout rompre dès que l'animateur rural, nommé Patrice Norbert, présente une vieille vedette oubliée par tous, sauf par lui, car il est très fidèle en amitié. Patrice Norbert est entouré d'un panel de vieux chanteurs ou chanteuses censés présenter l'émission avec lui, mais à qui il coupe régulièrement la parole en s'esclaffant sans cesse, car il fait beaucoup de jeux de mots. Dès qu'il en a l'occasion, c'est-à-dire souvent, Norbert hurle « c'était mieux avant », ce qui fait tomber quelques euros supplémentaires dans son escarcelle puisqu'il est producteur de ce show endiablé. Un très vieil artiste se pointe sur la scène. Célèbre pour son doublage de la voix du canard Saturnin il y a près d'un demi-siècle, le brave homme est saoul, car l'émotion et le trac l'ont poussé à vider une bouteille de cognac dans la loge. Accompagné par l'orchestre de retraités sponsorisé par Norbert, le vieil alcoolique fait un tabac en bégayant une rengaine inaudible. Ensuite, une sexagénaire hystérique martyrise un piano, tout heureuse de pouvoir déconner un samedi soir sans se faire engueuler par l'infirmière-chef du pavillon des agités. Puis, un type se met un chapeau et une grosse paire de lunettes et imite Madame de Fontenoy, la patronne des Miss France. L'imitation est catastrophique, mais la salle est pliée de rire, car Patrice Norbert est très à cheval là-dessus. Il faut rire, sinon c'est la porte, avec interdiction de revenir. La soirée s'étire doucement et l'heure où les vieillards mettent une couche propre avant de se mettre au lit y approche. Patrice Norbert nous gratifie de 2 hommages posthumes à Chacha Listel et à la chanteuse morte du groupe Il était 2 fois. Les mouchoirs fournis par la production sont humides et la salle sanglote. Ceux qui n'arrivent pas à pleurer sont discrètement expulsés par les potes rugbyman de Norbert. Pour terminer la soirée, Norbert monte sur scène avec tous ses invités qui peuvent marcher. Et Hugo Chaud, 81 ans aux prunes, entonne son refrain célèbre que tous les écoliers français de plus de 60 ans connaissent par cœur. « Tiens bon ta canne et tiens bon tes dents, hissé haut, tu seras mort bientôt. Franchement, c'est vraiment pénible de faire des rêves comme ça. Heureusement que dans la vraie vie, nous avons une télé de qualité. »